Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. Bon, ça caille, les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent, comme dit la chanson, et même si nous sommes en milieu d'après-midi, j'ai une idée. Et si nous transformions pendant une heure le studio de Popopop en cuisine et que nous mijotions à la chaleur des fourneaux un bon petit plat popopien en compagnie du chef pop par excellence, l'ombrageux Philippe Etchebest, qui règne d'une main de fer dans un gant de velouté sur Top Chef, dont la 13e saison s'apprête à démarrer. Celui que le magazine Go Emilio désignait en 99 comme un grand de demain est devenu un géant d'aujourd'hui, aussi à l'aise devant les caméras que devant une batterie de cuisine, voire une batterie tout court. D'où lui vient cet appétit de vivre? Comment entretient-il la légendaire force basque? Sa seule voix va-t-elle suffire à nous faire saliver? Vais-je me faire engueuler si je lui pose une question qu'il estime mal tournée? Autant de questions auxquelles nous aurons des réponses dans les minutes qui suivent. Chef Etchebest est l'invité de Popopop, et cette émission a naturellement pour titre Menu Maxi Etchebest of Popopop, c'est parti.
France Inter. Popopop. Antoine de Gaulle.
Bonjour Philippe Etchebest.
Bonjour Philippe Etchebest, c'est bien ça. Vous l'avez fait exprès d'écorcher mon nom là.
Évidemment, c'est juste pour vous embêter, pour me faire engueuler dès le début de cette émission. Bon, bienvenue chef dans Popopop, c'est une première.
Ouais, absolument,
C'est la première fois que vous mettez les pieds ici.
Ouais.
Alors
c'est la première fois que je suis invité aussi, donc.
Non, on a essayé, mais enfin, après, l'histoire de planning ne coïncidait pas. Voilà. Enfin, vous voilà ici. Au menu, donc, un grand chef, et nous en sommes ravis. Comment allez-vous?
Très bien, ouais, je vais bien. Écoutez,
vous me diriez si ça allait mal?
Ouais, bien sûr. Mais ça va bien. Écoutez, en bonne santé, la famille va bien, donc la vie est belle. Ça va.
Dites-moi, vous êtes tout doux, Philippe Etchebest, non? Vous ne faites pas que grogner?
Ah non, mais pas du tout. C'est une image qu'on m'a collée, effectivement, parce que peut-être je l'ai bien voulu ou je l'ai montré, mais je suis pas tout le temps non plus comme on peut l'imaginer.
Alors attendez. Est-ce que vous êtes en train de me dire que vous êtes exactement le même à la scène qu'à la ville?
Même
homme.
Ouais.
D'accord.
Ouais. Pourquoi?
Parce que quand on fait ce métier, on n'est pas jamais tout à fait le même devant des caméras.
Alors je vais vous dire un truc. Quand j'ai accepté de faire Cauchemar en cuisine, il y avait deux conditions. Je joue pas un rôle et on raconte la vérité.
Mm-hmm.
Voilà. That's it. Terminé.
Oui, mais vous savez que c'est pas évident à tenir, ça, être tout à fait raccord dans la vie entre l'image qu'on projette et ce qu'on est en réalité.
J'avais pas pensé.
Eh ben, il était temps de venir nous voir. Bon, ensemble, nous allons parler de cuisine, évidemment, et de pop culture, bien sûr, et aussi de ça. Eh oui, car vous êtes batteur.
J'y suis pas encore, là.
Mais si, bien sûr que c'était vous. Bien sûr que c'était vous. Et nous y reviendrons. Vous pouvez commencer d'ailleurs à assouplir les poignets, Philippe. Vous êtes donc chef mélomane et chevalier de la Légion d'honneur et chevalier de l'Ordre national du mérite. Quand on est chef, est-ce qu'on préfère les médailles ou les médaillons?
Ah, je préfère les médaillons. Après, les médailles, ça fait plaisir, bien évidemment. Il y en a une qui me fait particulièrement plaisir, c'est la médaille des meilleurs Way de France, bien évidemment. C'est la plus belle, je crois, et puis voilà. Mais les médaillons, c'est bien. Quand c'est accompagné d'une bonne sauce, ça le fait à chaque fois.
Attendez, Charline, pour parler de cuisine, je vous en supplie.
D'accord.
Philippe, vous êtes également sportif, habitué des terrains de rugby, et vous dites que, tout comme un joueur avant de rentrer sur le terrain pour un match, vous ressentez le même stress, et vous faites preuve de la même concentration avant d'entrer en cuisine. Ça vaut aussi pour une émission de télévision, ça?
Alors, est-ce qu'on peut parler de stress, je sais pas, de concentration peut-être, mais à un moment donné, ça devient tellement presque normal, j'ai envie de dire, que c'est comme la pression, je dois l'avoir constamment, mais en fait, elle ne muse pas, quoi, elle ne me pollue pas l'esprit en tout cas, donc... Je sais pas. En tout cas, j'appréhende des choses à chaque fois avec beaucoup de sérieux, sans me dire que c'est facile. C'est parce que c'est quand on se dit que c'est facile justement qu'on fait des conneries. Donc, je reste toujours concentré sur ce que je fais, ouais.
Et puisque vous êtes un pratiquant de rugby, est-ce que vous pourriez établir une passerelle entre le rugby et la cuisine? Est-ce qu'il y a des points communs en dehors du ravitaillement de la troisième mi-temps, bien sûr?
Évidemment qu'il y a des points communs, à savoir l'esprit d'équipe, l'entraide, la cohésion, l'exemplarité. Toutes ces choses-là sont liées. Et c'est vrai que j'ai souvent fait le parallèle entre la cuisine, l'esprit de brigade de cuisine et l'esprit d'équipe au rugby. Pour moi, c'est lié. Comme je pouvais lier aussi, parce que j'ai fait de la boxe pendant plus de 10 ans, le côté compétition quand on fait un concours, et notamment concours meilleur de France, j'ai toujours dit je suis rentré dans la cuisine comme sur un ring parce que on est seul à ce moment-là.
C'est vrai que la première fois que vous êtes monté sur un ring, vous êtes pris un KO.
Ouais, absolument. Ouais, j'ai pris un KO et c'était pour le test, hein, parce que quand vous rentrez dans une salle, on vous teste. Bon, on m'a testé.
Ouais.
Et quand je suis ressorti d'entraînement, Je me suis dit un truc, je partais au boulot, je me suis dit, ce mec me remettra plus jamais KO. Mmh. Et je m'entraînais tous les jours avec lui. Ouais. Tous les jours, j'y allais, j'allais avec la boule au ventre, en me disant, putain. Et, mais c'est là aussi qu'on apprend. On apprend la vie, on apprend les choses et on apprend que pour progresser, faut toujours se battre contre plus fort que soi. Ouais, ouais. Et c'est comme ça et c'est grâce à lui que j'ai été champion midi-pyrénées en mi-lourd en 93 à l'époque. Parce que tous les jours, je m'entraînais avec un pro. Il était pro et il était, c'était un
monstre. Vous ne répondez pas à la question. Vous avez fini par l'avoir?
Non. Je ne l'ai pas eu. Non, je ne l'ai pas eu. Mais je ne suis plus retombé par terre. Ça, c'était une bonne chose.
Parce que le défi tient toujours, parce que peut-être que s'il nous écoute, il va remettre les gants pour vous. Bon, Philippe, je sais qu'il y a un morceau que vous aimez bien écouter en cuisine, c'est les cornichons de Nino Ferrer. Ah. Et même si vous n'êtes pas tout à fait en cuisine tout de suite, je vous propose d'écouter ce morceau tout de même. Les cornichons, Nino Ferrer dans Pop 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 sur France Inter. Un morceau pour faire plaisir à Philippe Etchebest, notre invité aujourd'hui. Alors ce morceau, Philippe, a un côté très ludique et entraînant, dites-vous, et vous aimez l'écouter en cuisine, si mes infos sont bonnes.
Oui, c'est ça, oui. Parfois, ça m'arrive. Je trouve que c'est très gai, c'est très entraînant, c'est très motivant aussi. Enfin, ça respire la bonne humeur.
J'espère qu'ils ne suivent pas la lettre, l'énumération de Nino Ferrer.
Non, c'est la musique qui fait tout, là.
Alors, on est en train de comprendre que musique et cuisine sont indissociables chez vous, Philippe Etchebest, mais le résultat des plats est-il différent si vous écoutez du... Ou bien du... Et CDC ou bien-être?
Ah, j'écoute plus ça, CDC, moi. C'est plus ça. Après, J'aime la musique parce que, je sais pas. Et puis en plus, ça me rappelle. Alors, j'ai pas de mémoire, comme vous avez pu le constater tout à l'heure.
Nous sommes deux, je vous rassure.
Voilà, on est deux, c'est très bien.
Heureusement, Charline arrive dans quelques
instants. Ma vie, en tout cas, est rythmée justement par la musique. Elle me rappelle à chaque fois des périodes et des dates, dates bien précises. Ouais. C'est marrant. J'ai des repères musicaux. Enfin, ma vie, est rythmée par ces souvenirs musicaux. C'est très drôle. Donc, mais j'aime beaucoup la musique et puis travailler. Alors parfois oui, parfois non, ça dépend, mais après c'est varié en fonction des moments. Ça peut passer de la CDC à un air d'opéra, à une calas, la Mamorte, c'est une chanson que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup d'émotions. Donc j'ai une palette assez variée en fait.
Bon, moi je dis vive CDC en cuisine. Vous êtes un chef connu et reconnu, mais ce que nous savons moins, c'est que vous êtes aussi batteur. Et alors je parle pas ici de l'ustensile qui sert à faire monter les blancs en neige. D'où vient cette passion pour les baguettes? Et je ne parle pas de pain, bien sûr. Bon, j'arrête les métaphores culinaires. Alors, bref, d'où ça vient?
Je sais pas, j'ai été bercé de toute façon par la musique dès mon plus jeune âge. Mes parents, mon père basque, forcément, les chants basques, vous les connaissez aussi, vous en avez sûrement entendu, c'est superbe. Les opéras, l'opérette, enfin tous ces trucs-là.
Mais il n'y a pas de batterie là-dedans.
Il n'y a aucune batterie, ça n'a rien à voir. Néanmoins, on chantait souvent à la maison, on chantait beaucoup. Et la batterie, je sais pas, c'est peut-être une question de rythme. Je pense avoir le rythme. Ouais. Alors c'est vrai qu'on dit quand on m'écoute jouer, je suis très carré. C'est poum, 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 ça bouge pas trop,
quoi. C'est ce qu'on attend d'un batteur au départ.
C'est ce qu'on attend, mais il y a des batteurs qui bougent. Je bouge pas trop, donc c'est plutôt bien.
Moi, je bougeais beaucoup, moi, on m'attendait quand je jouais de la batterie.
Je sais pourquoi la batterie, j'en sais rien. J'aurais aimé savoir jouer de la guitare, mais je suis moins souple des doigts, peut-être. C'est un peu plus dur, les poignets un peu bloqués.
Vous produisez même avec votre groupe, qui a pour nom Chef and the Gang, c'est un clin d'œil évidemment à Cool and the Gang.
Évidemment.
Et vous faites donc, j'en déduis, du rock fort.
Ouais, du rock fort. C'est vrai. Mais ça, c'est varié aussi. On a une palette musicale. Ça passe de Queen à du Guns N' Roses, à CDC. Ça peut être du Led Zepp. Ça peut être aussi des Beatles. On fait du Lenny Kravitz. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout. Ça reste rock quand même.
Oui, je vois.
On aime bien
rock que Vianney.
Ouais.
Alors, c'est pas un exercice que vous prenez à la légère, hein, puisque vous pratiquez la batterie chaque jour une demi-heure le matin après votre petit déjeuner avant d'aller travailler.
C'est ça.
Rassurez-moi, vous n'habitez pas dans un appartement. Vous avez des voisins très.
J'habite pas dans un appartement. Néanmoins, j'ai commencé avec une batterie électronique pour éviter de faire trop de bruit, de déranger déjà.
C'est pas pareil la batterie électronique.
Non, mais c'est vrai que c'est pas pareil. Mais au moins, j'ai pu apprendre les rudiments avec ça. Aujourd'hui, j'ai une acoustique et je me suis construit une pièce spéciale où je m'enferme et je fais pas trop de bruit, si ce n'est qu'à l'intérieur. Voilà.
Et la légende raconte même que vous avez une batterie dans les loges de Top Chef.
C'est vrai.
C'est vrai, ça?
C'est vrai, absolument, dans les loges de Top Chef et même sur Objectif Top Chef. Parce que dès que j'ai un moment, et comme je n'aime pas perdre de temps, eh ben je fais mes exercices, je m'entraîne ou je répète mes morceaux.
Donc c'est vrai. On peut raisonnablement parler d'addiction, on est d'accord?
Je sais pas si c'est une addiction, en tout cas c'est une volonté de vouloir progresser et comme l'introduction là que vous avez passé, je suis incapable de le faire mais j'aimerais bien y arriver. Donc je travaille pour arriver à faire ça. Vous voyez, je me fixe des objectifs comme ça.
Et le groupe Chef and the Gang est d'ailleurs né pendant la préparation de Top Chef, si mes infos sont toujours exactes.
Objectif Top Chef. Ce qui s'est passé c'est que en tournée sur Objectif Top Chef, je sillonnais les routes de la France et puis j'ai affaire à beaucoup d'intermittents du spectacle et des musicos notamment. Donc on s'amusait dans le temps au cours d'une étape, on louait un petit studio puis on s'amusait à jouer comme ça. Et puis on s'est dit tiens mais pourquoi pas aller plus loin et puis faire un petit concert. Donc moi j'ai commencé à travailler, à prendre des cours. C'est là où je me suis aperçu que je ne savais pas jouer de la batterie. Et puis de fil en aiguille, et voilà, on a fait notre premier concert en 2017, place de la Comédie, devant le restaurant, devant ma brasserie.
Oui, et vous avez joué au Hellfest quand même?
Pas encore. Oui, si.
Si vous avez joué au Hellfest.
Oui, c'était une captation vidéo avec les inspecteurs Clouseau. Et j'ai rencontré donc le boss du Hellfest avec le programmateur et puis ils m'ont proposé gentiment, ils m'ont demandé en tout cas si je voulais faire l'ouverture du Hellfest cette année au Metal Corner. Et j'ai dit ouais, je peux vous dire un truc.
Allez.
3 jours plus tard, je répétais avec les copains. C'était le week-end, on répétait. Et à midi, à l'apéro, je dis les gars, vous faites quoi le 16 juin en fait? Ouais, je sais pas. Bon, pourquoi? Parce qu'on fait le Hellfest. Quoi? On va jouer au Hellfest? Mais non, ben si, voilà, super délire.
Vous savez que c'est nos gros chouchous ici, Inspecteur Clouseau.
Ah ouais?
Ah
ça,
ouais, on les joue, on les reçoit.
Ah mais je crois que vous avez fait un truc avec eux.
Évidemment, évidemment.
Mais oui, bien sûr.
Je les adore. Ils ont des problèmes avec leurs oies en ce moment, à cause de la grippe aviaire.
Ouais. Ah putain, les pauvres. Ils se battent.
Ils se battent. Ils font de la bonne musique et ils font du bon foie gras.
En plus de ça.
Bon, Philippe, vous faites de la batterie, vous faites de la cuisine. Je vous propose donc de mélanger vos deux passions avec une batterie, certes un peu rudimentaire, artisanale. Regardez, elle est à gauche de vous. Faites de casseroles. Après tout, vous êtes cuisinier.
Ouais.
Vous relevez le défi ou pas?
Moi, je relève tous les défis.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous jouer? Un peu de AC/DC, un peu de simplement me marquer un tempo, comme ça moi j'en profite pour faire une petite liaison.
Attends.
Voilà. Queen. Alors amis auditeurs, ce que vous entendez en ce moment, c'est Philippe Etchebest en train de jouer sur des casseroles, une performance absolument unique et uniquement à écouter dans Pop Pop Pop. Ouais, c'est bien, ça y est, il est lancé, on peut plus l'arrêter. Bon, Philippe, nous allons continuer de parler de musique, de cuisine et de pop culture avec Charline qui nous rejoindra après un autre morceau que vous aimez beaucoup, c'est Under Pressure de Queen et David Bowie.
Yes.
Merci.
So slashed and torn.
vient de nous rejoindre la plus picarde de vos fans, Philippe Etchebest. Bonjour Charline.
Bonjour, vous faites bien de mentionner la Picardie, parce que je crois ne pas être la seule à y être
ah bon
née.
Ah bon. Alors d'abord,
Philippe,
chef...
non, vous n'êtes pas né à 60 dans l'Aisne.
Oui, je suis né à 60
voilà,
dans l'Aisne.
Ça fait de vous un Picard.
Ah, c'est la Picardie
ah bah,
ah oui,
bien
c'est
sûr.
La Picardie, l'Aisne.
D'accord.
Ah bon bah, oui, bien évidemment, 02 Picardie.
Ouais,
je suis désolé,
okay,
pour une fois, je peux revendiquer quelqu'un de ma région sans que ce soit un peu la honte.
Surtout, surtout pas discuter, Philippe, vous allez voir tout de suite. Alors d'abord, chef Etchebest, rappelez-nous ce que c'est qu'un roux en cuisine. Est-ce que c'est vrai qu'on appelle ça aussi un temps pour temps?
C'est ce qu'on appelle le temps pour temps, parce que c'est la même quantité. Ouais. Bah, alors il y a le roux blanc et le roux brun, ou le roublon.
Ben, moi j'ai le roublon.
Voilà. Et vous en faites quoi?
Et je suis curieuse, si
quand vous cuisinez quand est-ce que vous cuisinez en faisant des roux?
Oh, je mélange, après je fais un petit gâteau avec. Bon Charline, ce n'est pas à vous que je vais là. Mais Top Chef est de retour. Allez-y, lâchez les chiens.
Allez, chacun ses addictions. Alors bonjour Charline, accro à Top Chef. Je n'ai raté aucune des, pour l'instant, 12 saisons de ce concours culinaire destiné majoritairement aux pros, quelques amateurs issus d'objectifs Top Chef pouvant se frayer un passage. L'émission qui donne faim, l'émission qui donne envie de cuisiner, l'émission qui me fait régulièrement pleurer et pas d'émotion devant un rideau, mais quand mes chouchous se font éliminer. L'émission qui enrichit mon vocabulaire, je sais ce qu'est un flambadou. Et l'émission qui enrichit mon bestiaire, je sais désormais ce qu'est un pousse-pied. Et je ne vous cache pas que je le regrette. Bref, Top Chef dans le top 3 de mes émissions de télé préférées.
Vous ne pouvez pas dévoiler grand-chose, j'imagine, mais quelle saveur a-t-elle cette 13e saison?
Elle a un bon goût, une fois de plus. Je crois que on s'amuse toujours autant. On découvre des choses, on est surpris à chaque fois parce que, alors ça peut paraître un peu, dire, ouais, c'est toujours bienvenu de dire que c'est encore une année exceptionnelle. C'est comme le vin à Bordeaux. À chaque fois, on a l'impression qu'il est meilleur.
On bouge à nouveau.
Mais c'est vrai parce que les candidats sont différents et ils nous apportent justement à la fois des choses culinairement parlant différentes, mais des émotions aussi différentes. C'est ça qui est bien dans Top Chef.
Quiconque regarde l'émission aura remarqué votre degré de compétitivité, un coach qui fait suer ses candidats d'efforts et un peu de peur sans doute. Vous êtes là pour la gagne, vous ne vous en cachez pas, je suis sûre que vous tenez les comptes. Alors en 12 saisons, combien de candidats de votre brigade victorieux, est-ce que vous vous en souvenez? Qui mène le jeu pour l'instant?
Alors, aujourd'hui je suis ex-aequo, au nombre de victoires, oui, avec Hélène, ouais. Mais au nombre de candidats et de finales, non, je suis premier.
Ouais.
Puisque j'ai eu 4 candidats en finale, dont 2 la même année,
ouais,
en même temps,
absolument.
Victor et Camille,
ouais.
Et j'ai gagné 2 finales. Néanmoins, j'ai quand même un candidat, celui-là je le compte pas, j'en fais cadeau à Michel Sarron, qui faisait partie de ma brigade et qui a gagné une année.
Ouais, voilà. C'est ça, après avoir été transfuge de chez vous.
Parce qu'à un moment donné, je garde trop mes candidats, il faut que je les donne après. Voilà, ça le problème.
Et alors, il faut partager dans la vie, Philippe.
C'est ça le problème,
D'ailleurs, vous êtes tellement compétiteur que vous participez à une épreuve, la mythique Qui peut battre Philippe Etchebest, durant laquelle les candidats ont donc pour mission d'être meilleurs que vous, ce qui est quand même sacrément gonflé. À vous d'avoir quelques suées pendant cette épreuve.
J'en ai. En plus, c'est con, là, il me fout toujours au fond. Et je dis, mais arrêtez de me foutre au fond, il faut que je cours comme un malade et tout.
Et parce qu'au fond,
non,
on est
mais
pas si
c'est con. Bien, on aime bien de voir courir, ouais, mais. Putain, j'en chie. Et à chaque fois, à la fin, je me dis, mais pourquoi je fais ça, putain? Mais je me régale, en
non,
fait.
Mais ce qui est très drôle, c'est que, effectivement, vous êtes au fond de l'atelier, là où les candidats sont plus près du garde-manger, etc.
Ouais.
Et surtout, je crois que vous avez moins de temps qu'eux pour préparer le même plat.
La moitié de temps.
Vous êtes maso.
Il faut bien qu'il ait un handicap, quand même.
Et je vais vous raconter une fois, une année, j'avais 4 plats à faire. 4 plats à faire, les candidats avaient 2 heures, je crois. Et la production m'a dit, on va faire 1h30 pour toi. Mmh. Bah, j'ai dit non, ça colle pas, c'est même pas la moitié. On va faire 1 heure. Mmh. T'es sûr? Ouais, on va faire 1 heure. Mais 4 assiettes? Ouais, on va faire 1 heure. Et 10 minutes avant, il me demandait, t'es sûr que tu veux faire 1 heure? Ouais, pas de problème. Oh putain, j'ai regretté. Le carnage. Ah non, le carnage. Je voyais pas la fin. Et sur les 4 assiettes, je sais que j'en ai réussi 2. Il y en a 2 qui sont passés devant et les 2 autres sont passés à la trappe.
Alors la seule limite pour les candidats cette année, c'est leur imagination. On sait que certains étaient très créatifs la saison dernière. Je pense notamment à ce candidat qui a reproduit des toilettes en trompe-l'œil. Souvenez-vous.
Si moi je fais cuvette des chiottes. 7 ans de Top Chef pour en arriver là.
Voilà.
Je suis décontenancé.
Voilà, bah écoutez, je vous laisse enchaîner, hein, c'est votre émission après
ah
tout.
Ouais, ah non, c'était énorme, qu'est-ce qu'on a ri, j'ai rigolé. Non mais t'as pas fait ça, si. Et à tel point que il fallait aller loin, pourtant le chef en place, c'est un chef espagnol, il voulait être surpris et choqué. Mais là, il a dit ça va trop loin.
Ouais.
Non, il a dit ça va trop loin,
ouais, bien sûr.
Je peux pas là.
Est-ce qu'ils seront encore plus créatifs cette année?
Ah, il y a des trucs quand même. Ah, il y a des trucs sympas, quoi. Et non, franchement, y a des... parce que nous, on se pose des questions quand même. À chaque épreuve, on essaie de se projeter et puis de trouver des trucs. Enfin, franchement, il y a des épreuves. On se dit, c'est chaud, hein.
Ouais. Alors justement, on assistera aussi au retour d'une autre épreuve mythique, à la boîte noire, dans laquelle les candidats et vous-même devez déguster un plat.
En disant la boîte noire,
parce que ça fait peur.
Allez-y.
Vous devez donc déguster un plat dans le noir complet, le reproduire ensuite. Comment est-ce qu'on se prépare à ce genre d'épreuve et est-ce qu'elle fait partie de celles qui sont les plus redoutées par les candidats?
Elles sont difficiles. Enfin, c'est difficile déjà de déguster dans le noir parce que la perception du goût n'est plus la même. Hein. C'est très déstabilisant. Mais moi, j'ai encore un plus. J'ai encore un handicap supplémentaire, c'est que je travaille avec Paul Perret. Donc,
votre némésis.
Qu'est-ce qu'on rigole. Et qu'il est extra. Je l'adore, Paul, parce que c'est un ovni et il est magnifique. Mais cette année, j'ai fait avec lui la boîte noire, malheureusement. Enfin bon.
Les 15 candidats vont rencontrer les chefs les plus créatifs de la planète, à l'image de Pia Leone, meilleure femme chef au monde. Qu'est-ce qui excite les chefs les plus prestigieux pour participer à Top Chef, selon vous?
Je sais pas. Alors, il se trouve que le programme Top Chef est issu d'une émission américaine, on est bien d'accord, et que Top Chef France est devenu une référence au monde. Ah Même les Américains, pour vous dire, ils viennent voir en France comment ça se passe et quel type d'épreuve on fait.
En même temps, ça tombe sous le sens. Pays de la gastronomie...
Ça aurait été dommage que ce soit le contraire, franchement. Donc, c'est très bien. Et je pense que le Top Chef en France a atteint un tel niveau au niveau du concours, mais au niveau de l'aura aussi, que les chefs étrangers même sont très contents de venir sur cette émission, sur ce programme. Quoi. C'est bien, ça prouve que c'est un programme de qualité.
Et on peut aussi noter la présence de Massimo Bottura, triplement étoilé et engagé, notamment contre le gaspillage alimentaire. Il est le fondateur de plusieurs restaurants solidaires. Des préoccupations, des réalités qui reviennent depuis plusieurs années dans la compétition Top Chef. Est-ce que le divertissement, c'est aussi un bon moyen de sensibiliser?
Ah oui, carrément, bien sûr, c'est de faire passer des messages, autant que ça serve à ça. Donc je trouve ça très bien justement de pouvoir faire des épreuves autour de thématiques, autour de sujets qui sont graves et qui sont importants justement et auxquels il faut sensibiliser les gens. Parce que là, les gens cuisinent au quotidien forcément, donc ça peut leur amener, je pense, des idées et puis un comportement un peu différent.
Nous sommes avec Philippe Etchebest pour parler de la saison 13 de Top Chef, dont le deuxième épisode sera diffusé ce soir sur M6. Et on continue d'en parler juste après les Pop News.
Chris Pratt à cheval dans la neige, lancé à la poursuite de dinosaures. Mais de quel film peut-il bien s'agir? Jurassic World 3, le monde d'après, et plus précisément 4 ans après. Après la destruction de Isla Nublar, les dinosaures font désormais partie du quotidien de l'humanité entière. Mais, car il y a toujours un mais...
On ne peut pas la garder ici.
S'il la trouve, on la reverra jamais. On doit la protéger. C'est notre rôle.
Les humains et les dinosaures ne peuvent pas coexister. On a provoqué une catastrophe écologique.
Ellie Sattler.
Alan Grant.
Ne me dis pas que t'es venu jusqu'ici... pour évoquer le bon vieux temps.
Tu viens ou pas ?
Ellie Sattler et Alan Grant, soit Laura Dern et Sam Neill dans Jurassic Park. Le professeur Malcolm Jeff Goldblum sera lui aussi de la partie et Jurassic World 3, le monde d'après de Colin Trevorrow, ce sera le 8 juin dans les salles.
Une première bande-annonce pour la saison 2 de la série Coquino Corseté, produite par Sonda Rhimes. La chronique des Bridgerton se déroulant dans la haute société londonienne lors de la régence anglaise. Dans la saison 1, la cour de Londres frémit à chaque fois que paraît le billet de Lady Whistledown, écotière dont personne ne connaît l'identité. Quid de la saison 2?
Cher ami lecteur, vous ai-je manqué? Tandis que les membres de notre haute société se questionnaient quant à mon identité et à mes moyens, votre dévouée chroniqueuse ne faisait qu'une chose. Parfaire ses talents. Non, encore mieux, j'affûtais mes larmes pour vous tous.
La chronique des Bridgerton, saison 2, ce sera le 25 mars sur Netflix.
Dans Encore, le nouveau film de Cédric Clapiche, Marion Barbeau, véritable danseuse de l'opéra, incarne Élise, une grande danseuse classique qui se blesse pendant un spectacle et apprend qu'elle ne pourra plus danser.
Je crois que c'est ça le plus dur aujourd'hui. De repenser à tout ce temps passé et de me dire que ça a servi à rien.
Si tu construis ta vie sur ton corps, à 35 ans, t'es à la retraite. T'es obligé d'avoir au moins deux vies.
Serena m'a proposé un job avec son mec.
Et donc tu vas complètement laisser tomber la danse. Faut y croire. Hein, faut t'accrocher.
On est une compagnie de danse contemporaine.
Moi, c'est toujours les résidents que je préfère, c'est les danseurs, parce que...
Quand ils bougent, tu veux dire
avec, avec les...
Le corps. Quand ils bougent avec le
les
corps.
Bras, quand ils bougent avec le corps.
Le mouvement.
Oui, oui.
Quand ils dansent, quoi.
Encore, avec également et par ordre d'apparition dans la bande-annonce, Denis Podalydès, François Civil, Muriel Robin, et comme j'ai un Pio Marmaille en bonus, je vous le mets aussi, ce sera en salle le 30 mars.
France Inter. Pop-pop-pop. Antoine Decaune.
Et nous continuons ce pop-pop-pop hors de Philippe Etchebest, venu nous parler de la 13e saison.
C'est ça.
Deux Top Chef. À vos côtés dans le jury, Hélène Darroze et Paul Perret, et puis Glenn Viel.
Glenn Viel, hein, ouais, c'est
le
ça.
Le plus jeune chef 3 étoiles de France qui vous a rejoint cette année.
Ouais.
C'était quoi le bizutage?
Alors,
il y en a eu un autre.
Il y en a forcément, parce qu'ils y ont tous droit. Paul a eu son bizutage la première année où il était là. Et Glenn, il y a eu aussi, on lui avait demandé de se déguiser en reine d'Angleterre parce qu'on recevait une chef anglaise qui portait une épreuve. Et on lui dit, voilà, écoute Glenn, l'année dernière, c'était Paul, il s'était déguisé en carotte. Toi, tu vas te déguiser en reine d'Angleterre, voilà, pour accueillir la chef Claire sur le plateau.
Alors il l'a fait.
Allez, arrête, t'es déconne. C'est mais non, sérieux. Écoute, vas-y, fais-le. Non, je vais pas le faire et tout. Non, il a pas mis la robe, mais je crois qu'il a mis la perruque. Quoi qu'il est déjà bien équipé, bah, ses cheveux un peu longs, lui. Mmh.
Comment a réagi la chef anglaise?
Non, mais elle l'a pas vu en fait. C'est resté dans la loge. Voilà, c'est pas sorti de là et on.
Voilà.
Mais
prendre,
néanmoins, je peux pas vous le dire. Je crois que je peux pas vous le dire. Mais
alors.
Il a été bizuté en direct. Ça, vous allez voir.
Il a été bizuté en direct.
Ouais.
J'adore cette phrase.
Ouais. Et alors, depuis qu'il est arrivé dans l'émission, Paul Perret joue le rôle de votre némésis. C'est un peu votre ennemi juré. Avec chambrage en règle pendant les épisodes. Est-ce que ça va continuer cette année?
C'est mon ennemi juré, Paul Perret?
Ah bah,
mais non.
Vous jouez la carte
vous
du.
Jouez le rôle.
Vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes les deux plus compétiteurs. En tout cas, vous êtes les deux qui se chambrent le plus.
Ah ouais.
L'un et l'autre.
Alors, je sais pas. Mais en tout cas, on rigole bien, ça c'est sûr. Moi, il me
ça
fait
se
rire.
Sent.
Et il me fait rire. Il part dans des explications qu'il ne comprend même pas lui-même. Et il le dit, il avoue, il dit, je ne sais plus où j'en suis. Y a que... enfin, bon, c'est un ovni. Vraiment, Paul Perret,
c'est un avion.
Ovni.
Ouais, c'est un avion,
en plus.
Quand
ouais, il le fait, en plus, il fait l'avion. Enfin, il fait tout, c'est du grand n'importe quoi. Mais j'aime beaucoup sa philosophie et son approche culinaire qui est complètement différente de la mienne. Je serais incapable de faire ce qu'il fait parce que lui, pour faire un plat, il lui faut 2 ans. C'est ça qu'on fait le qui peut battre, qu'on lui demande 45 minutes. Ah ouais, lui dit mais c'est impossible. Alors c'est là où il est très drôle, c'est qu'il dit il n'y a pas de place pour lui à l'imprévu. C'est pas possible. Mm-hmm. Tout doit être calculé. Donc, dès qu'il y a un truc qui marche pas, c'est la panique totale. Et il ne sait pas faire 2 choses en même temps. C'est ça qui est extraordinaire.
Il y a d'ailleurs, où est passé Michel Sarron? Il a été mangé par les lions?
Non, il n'a pas été mangé par le lion. Bon, on va pas revenir dessus. Je crois que il est parti. Enfin bon, il est parti. C'était pas son choix, forcément. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous nous disent? Moi, on le regrette, bien sûr, Michel, parce qu'on a passé 6-7 années, même, ensemble. On s'est bien fendu la gueule aussi. C'était vrai. Sauf quand il y avait Mathieu Bébé Toulouse, ça a été un peu plus chier. Quoique cette année, c'est pas dit qu'ils gagnent. Ils ont perdu d'ailleurs à Bordeaux, je lui ai fait savoir, parce qu'on s'échange quand même des petits SMS à travers ça. Et puis voilà, il y a Glenn qui arrive, on l'a super bien reçu, et puis il apporte autre chose aussi. Bon voilà, ça fait partie de l'évolution du programme.
Bien sûr.
Alors on connaît déjà l'un des membres de votre brigade, Pascal, 21 ans, vainqueur d'objectif Top Chef. Il a été sacré meilleur apprenti de France 2020, et ce genre de parcours suscite quelques questions.
Bonjour chef Etchebest, je m'appelle Juliette et j'ai 12 ans. J'ai envie de devenir cuisinière et restauratrice, mais vous me conseillez plutôt l'école ou Objectif Top Chef?
L'école. Faut commencer par le commencement. Faut pas griller les étapes. Mmh. Voilà, je recommande vraiment de commencer par l'école pour avoir un bagage et à la fois technique et général. Hein. C'est très très important, vraiment. Objectif Top Chef, ça vient après. Et puis faut pas tout mélanger.
Alors message de service, chérie, puisque tu nous écoutes, tu te remets au devoir tout de suite.
Voilà. C'est votre fille.
Mais bien sûr.
Mais oui. Elle pige dans cette émission.
D'accord.
Et depuis la diffusion de l'émission, est-ce que vous avez constaté une augmentation des nombres de vocations?
Alors effectivement, il y en a eu. Il y a eu toutes ces émissions culinaires. Finalement, elles incitent ou en tout cas elles motivent les jeunes à faire ce métier. Et c'est très bien, mais il faut pas oublier que notre métier c'est pas la télé, parce qu'il y en a qui croient aussi qu'ils vont faire ce métier pour faire la télé.
On fait pas que ça, non.
On fait pas que
non,
ça.
Non,
en fait.
Non. C'est quelques pas restaurants ça, ouais. À droite à gauche.
Donc il y en a qui viennent
qui traînent.
Certains pour ça et puis d'autres non. Donc ceux qui viennent pour en pensant que c'est pour faire de la télé, ils arrêtent vite. Mais néanmoins, il y a quand même beaucoup de jeunes qui viennent à la cuisine grâce à ces émissions culinaires et c'est très bien.
Alors Philippe Etchebest, le programme cartonne. Vous faites partie des chefs les plus connus et les plus aimés de France. Qu'est-ce que vous vous dites en vous voyant dans Top Chef, vous qui êtes passé en 96 par ici?
Tiens là ma chérie, tu n'auras pas ma peau. Là c'est rien.
Ah putain, mais on manque toujours ça de maïté, mais vous avez pas celle où j'y étais? Je faisais des crêpes pour, c'était avec une petite, je me rappelle plus comment elle s'appelait.
Des crêpes à l'anguille?
Non, des crêpes, des aumônières de pommes, avec des crêpes, c'était super. Et oui, c'était ma première émission, effectivement. Alors non, c'était pas ma première. Enfin, c'était ma première en tant que chef. La première que j'ai faite, c'était avec Caroline Tresca. Mmh. J'étais sous-chef du Clos Longchamp à Paris. Et Jean-Marie Melien, qui était le chef à l'époque, me dit le matin même, Philippe, j'ai une émission cet après-midi, je ne peux pas y aller, tu vas y aller. D'accord, chef. Voilà. Ben voilà, ok, chef. Pas le choix. Et c'était ma première apparition à la télé avec Manitas et Platas, je me rappelle. Ah. Ouais, je faisais pas le malin.
Vous l'avez dit en ouverture de cette émission, mais quand vous avez accepté Cauchemar en cuisine, c'était à la condition de ne pas jouer un rôle, de ne pas tricher avec les images et de ne pas mentir. Alors, sinon, disiez-vous, ça marchera pas, ça se verra sur ma gueule.
Ouais, si on me force, ça se verra sur ma gueule. Si j'ai pas envie, je le ferai pas.
La condition sine qua non.
Ouais, et je pense qu'aujourd'hui, ça fait presque 12 ans, je crois, ouais, presque. Mmh. Ça commence en 2010, je tourne en 2010, ouais. Et ben, si ça marche encore, ça veut dire que finalement, la recette est bonne et j'avais raison. Mmh. Donc je calcule pas, je réfléchis pas, ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant pis, j'assume ce que je dis, j'assume ce que je fais. Mon objectif à moi, c'est d'aider des gens. Mmh. Et c'est ce qui m'a plu finalement, parce qu'au début, j'ai refusé, j'ai pas été forcément agréable. Et après de me dire, mais bah, c'est bien d'aider des gens. Voilà, et j'allais vraiment dans cet objectif-là.
Et de transmettre
aussi, et avec une obligation. Elle était pour moi, hein, elle n'était pas pour la chaîne ni pour qui que ce soit, mais de résultat et de réussir à faire en sorte que ces gens s'en sortent. Mmh. Voilà.
Dans la version originale de Cauchemar en cuisine, c'est Gordon Ramsay qui officie. Il se trouve qu'il a l'outrecuidance de tenir un restaurant juste en face du vôtre, à Bordeaux, si c'est toujours le cas. Est-ce que vous vous rendez mutuellement visite en mode Cauchemar en cuisine?
Alors, il faut savoir une chose, c'est que j'ai ouvert en septembre 2015 et Gordon est arrivé fin septembre. Enfin, ouais. Ça s'est joué à 15 jours près, c'était très drôle. Et Gordon est venu faire l'inauguration de son restaurant quelques jours après. Et il est venu me voir, je l'ai reçu. Franchement, il est venu manger à la table en cuisine. On a passé une soirée ensemble, c'était vachement bien. Ah, le mec, c'est quand même une star internationale.
Vous parlez anglais?
Ouais, il parle anglais. Moi, je parle un petit peu anglais aussi, je bafouille.
Allez-y.
Et please.
Yes.
Please.
Please.
I can speak English if you want, hein, but voilà, I prefer to speak French. It's better and everybody understand. Voilà.
Je crois qu'il parle un peu français en plus.
Il parle un peu français, absolument.
Donc, very good English.
Yeah. I try to do my best.
No, it's good. Et, you try your edge best. Ah oui, place à l'humour toujours.
Et non, on a passé une super soirée. Alors, faut savoir que Gordon Ramsay n'est pas dans l'établissement.
Non, j'imagine.
En 6 ans ou 7 ans, il a dû venir peut-être 2 ou 3 fois. Il est consultant. Mmh. Donc, j'ai un avantage certain par rapport à ce monsieur que je respecte énormément. C'est que moi, je suis chez moi et j'y suis. Voilà.
N'allez pas m'abîmer ma table. Le studio, il va me défoncer. Le chef, qui est une force de nature. Top Chef, saison 13, c'est en ce moment sur M6 et c'est évidemment avec notre invité Philippe Etchebest. Philippe, dans la suite de Pop Pop Pop, nous allons parler de ceci.
At this exact moment, I say we sit tight and assess.
Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent.
Maman, qu'est-ce qu'on fait ici?
Votre père blanchit de l'argent pour un cartel de drogue mexicain.
D'Alain Bachung, du film Don't Look Up, de la série Ozark et de Pop Culture. Tout ça, ce sera après Darjeeling. C'est un morceau de FKA Twigs, featuring Georgia Smith et Unknown T.
You're not alone. I'll wait to the end of time. Open your mind. Surely it's plain to see.
AOT attracts superstar. Crystal Palace, brap, brap, brap. Lymphic Christie Stadium. Every Tuesday, flagging a boy. Athletes low key capping the law. Croydon College stacking a wall. Love so big, I give him my all. East or South, we're dreaming it all. Body hot like cooking for long. We like to make love like whilst the dogs. I was on his side, 55 to making a pro. Body hot like cooking for long. We like to make love like whilst the dogs. I was on his side, East or South, we're dreaming it all.
Ran towards the last thought I could find. Yeah. Something bigger than the town that I had left behind. I remember packing up my bags, not saying my goodbyes. Also used to be a place I'd only ever start my dreams in, but home is where my heart is. Feel so alone in a city so big, cause I used to know the person that lived at 23 and try to smell the flowers that weren't on the common green. Getting off the 6 of oysters just to spend my 30p.
And I was just getting to know myself, the city it broke me in inside, dialing my confidence up about my hair and my skin. Yeah, you're not alone. I'll wait till the end of time. Open your mind, surely it's plain to see.
AOT attracts superstar. Crystal Palace, brap, brap, brap. Lymphic Christie Stadium. Every Tuesday, flagging a boy. Athletes low key capping a lot. Croydon College stacking up what? Love so big, I give my all. East or South, we're dreaming it.
Listen,
all.
Had to clean up my heart, mind, body, and soul. The London city's my home. She love me, fair, come, babe, leak at your toes. Put bricks in the sticks, come, we remake though. Invest my flow to my young boy, look in your book and grow. Back then, he's the boot, like we do up pro. Now his fins, we part from the block back days, cause we show down shows. Shows. Should I choose that Gucci or LV coat? Yo, I'm black and no hood on glow. The bandos beaming, my pastry comes from rotating phone. Gun step to the woods, gone clear. So much patience is greatness, call me bacon toast. Don't go, scar practice means perfect, girl. If you don't know, leave it to me, uncle.
Started at a country girl, while he heading got the grand. Had to change a couple schools, cause I wasn't fitting in. Take it straight to London, dream it big and let it grow. Just so you know. Feel so alone when the city gets cold. I've known that I'd make it since I was a young girl. The world is right there, I hear it calling. But home is a place that makes my heart sing. You're not alone. I'll wait till the end of time. Open your mind. Surely it's plain to see. You're not alone. I'll wait till the end of time for you. Open your mind. Surely it's time to be with me.
FKA Twigs, Georgia Smith et Unknown T, c'était le morceau Darjeeling. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et ce son, c'est évidemment...
Just Like Heaven, The Cure.
Just Like Heaven, bravo.
Ça me rappelle toute ma jeunesse, n'est-ce pas?
Comment ça, toute votre jeunesse?
Ah ben, je sais pas, vous présentiez cette émission.
Ah ben, c'était le générique des Enfants du Rock.
Bien sûr, j'adorais ça, j'adorais. Quelle émission.
Et ça, pour vous, ça représente la, ça symbolise la pop culture.
Ouais, la pop culture, mon adolescence aussi, certainement, une période de ma vie. C'était une super. J'adorais regarder cette émission, mais vraiment, c'était super. C'est pas pour le présentateur, mais en tout cas, moi, ce qui...
ça tenait beaucoup, ça tenait beaucoup au présentateur. Ouais, ouais.
Non, bon, c'est vraiment bien. Vraiment
Philippe, restons dans votre pop culture. C'est l'heure de votre pop list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série. Votre livre du moment, Philippe, c'est Le Piège Blanc d'Alban Michon. Charline, c'est une folle aventure que celle-là.
Août 2012, c'est la fin de l'été arctique. Deux aventuriers dérivent en kayak de mer au milieu du courant est-groenlandais. Ils vont relier les deux seules communautés de l'une des côtes les plus sauvages au monde.
Déambuler sur 1000 km sur un fragile kayak entre des montagnes de glace menacées par un vent qui peut souffler jusqu'à 200 km/h, c'est l'idée que vous vous faites de l'aventure, donc Philippe.
Ouais, moi je suis admiratif aussi de ces gens-là. Je me dis, ils sont barges. J'ai rencontré Alban il y a quelques années déjà. J'ai fait une expérience avec lui en plus. Alors, attention,
Je suis pas parti dans le Grand Nord faire des kilomètres. C'est à Tignes. Et ben d'accord. Hein, c'est à Tignes. Style, fallait monter une tente dans les conditions de tempête. Ouais. Alors, néanmoins, il m'a mis des lunettes où on voyait à peine, comme ça, juste comme ça. Et il faisait du vent avec un espèce de souffleur. Il me balançait du vent dans la tronche. Et il fallait que je monte une tente en y voyant presque rien. C'était très rigolo. Et j'ai fait de la plongée sous glace quand même, sous le lac, qui était assez impressionnant. Et en fait, faire ce qu'ils font, c'est dément, quoi. Il faut une capacité et un mental extraordinaire. Ouais. Mais comme quoi, aller au-delà de ses limites, enfin, ça fait partie des choses, moi, que j'aime aussi et j'apprécie et je suis admiratif de ces gens-là.
Voilà pour le livre Le Piège Blanc d'Alban Michon de Don't Look Up, Denis Cosmic. Ça, c'est votre pop recommandation cinématographique, Philippe. C'est un film réalisé par Adam McKay avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence. Charline, c'est le film le plus réjouissant qui soit sur un événement qui l'est moins, la fin du monde qui nous pend au nez.
C'est ça. Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence incarnent deux très mauvais astronomes qui s'embarquent dans une gigantesque tournée médiatique pour prévenir l'humanité qu'une comète se dirige vers la Terre.
I hear there's something you don't like the looks of.
We discovered a very large comet.
Oh, good for you.
It's headed directly towards Earth.
This comet is what we call a planet killer.
At this exact moment, I say we sit tight and assess.
Sit tight and assess?
Sit tight.
And then assess. The sit tight part comes first, and you got to digest it. That's the assessment period.
Alors, Philippe Etchebest, pourquoi plutôt Don't Look Up que, je ne sais pas moi, tiens, Ratatouille par exemple?
Bah, c'est très différent déjà, on est bien d'accord.
On n'est pas du tout dans le même registre.
On n'est pas dans le même registre. Mais je ne sais pas, c'était très. Alors, au-delà du film Catastrophe, ça, c'est un film qui passe quand même beaucoup de messages sur la manipulation. la manipulation
politique, médiatique,
ouais. Tout ça, c'est un truc incroyable. Mm-hmm. Incroyable. Donc, c'est en fait, faut voir le film dans sa globalité. Voilà, bon, Catastrophe, certes, il y a des effets spéciaux qui sont incroyables, mais sur cette manipulation qui est dangereuse, en fait, qui fait peur.
Ouais.
Qui fait vraiment peur.
Vous pensez que dans la vraie vie, on ne se concentre pas assez sur des véritables sujets qui menacent purement et simplement l'avenir de l'humanité?
Ah, certainement. Il y a des gens qui, quand même, qui alertent hein, sur ce qui se passe. Alors, j'ai eu la chance d'aller au pôle Nord dans d'autres conditions qu'Alban, bien sûr. C'était sur un bateau, mais avec des scientifiques, il y a plus de deux ans. Et c'est là où on se rend compte, et c'est là où on se dit ça fait peur, ce qui se passe. J'étais avec des gens qui faisaient cette excursion depuis presque 30 ans, et ils nous ont montré où était la banquise il y a 30 ans et où elle est aujourd'hui. Et là on se dit, ah ouais putain, ça craint quand même. Il faut faire gaffe, il faut faire vraiment gaffe. Et on devait aller là au pôle sud, malheureusement ça a été annulé à cause du Covid. Il y a eu 4 Covid sur le bateau et le bateau était paralysé en Argentine. Mais on devait partir justement au pôle sud avec mon épouse et puis Oscar. Et ben c'est repoussé et puis on a envie de voir ça, peut-être avant que ça disparaisse vraiment.
Philippe Etchebest, pour la suite, direction Chicago, car votre série du moment, c'est Ozark. C'est une série américaine créée par Bill Dubuc, Charline.
Marty blanchit de l'argent pour le compte d'un baron de la drogue, et lorsque son partenaire le trahit, il déménage avec sa famille au mont Ozark. Là-bas, il se retrouve opposé à un dealer local, à une bande de voyous et à un agent du FBI.
Monsieur Bird ?
Bonjour.
Trevor Evans, FBI.
FBI ? Qu'est-ce qui se passe ?
Nous avons des raisons de croire que l'associé de votre mari a été assassiné.
Quoi ?
Et si on arrêtait ce petit jeu ? La fuite, le mensonge, vous n'êtes pas fatigué ?
On a pris la décision de déménager en famille dans un endroit plus tranquille.
Maman, qu'est-ce qu'on fait ici ?
Votre père blanchit de l'argent pour un cartel de drogue mexicain.
Quelqu'un va mourir.
On se détend !
Pourquoi j'ai ce curieux sentiment qu'on sait tous les deux que vous seriez mieux morts ?
Alors Philippe, il est ici question de blanchiment, mais pas de blanchiment anal. Hein. C'est un sujet déjà largement évoqué par le passé dans Pop Pop Pop.
Ah bon ?
Ouais. Mais si vous étiez
J'étais
là.
Pas là, non ?
Carrément.
Même servi de cobaye, enfin Charline. Enfin, oh, ouais, je vous le rappelle.
Antoine.
Bon, alors, je crois que c'était une émission sérieuse.
Câble,
mais c'est une émission sérieuse. Alors, pourquoi elle vous plaît tellement cette série d'Ozark ?
Non, je sais pas. C'est l'espèce de calme qu'a.
Jason Bateman.
Ouais, il est incroyable. Il est incroyable comment il rebondit, comment c'est une série vraiment à rebondissement. Enfin, voilà, je sais pas, je me suis mis dedans comme ça et puis on s'y prend finalement et j'avais hâte que la quatrième saison arrive. Après, je suis pas très télé en vrai, je regarde pas souvent la télé, j'ai pas trop le temps. Les séries de temps en temps, J'avais suivi le Game of Thrones, ouais, mais je l'ai vu 4 ans après la fin du truc. Donc vous voyez, comme quoi je suis vachement en décalage. Mais j'ai pas trop le temps en fait de regarder. Ouais. Mais voilà, celle-là, je regarde dès que je peux. Je regarde.
Ok, Ozark, c'est votre conseil, Philippe Etchebest. Ouais. Terminons cette pop liste avec le morceau que vous avez choisi. Et ce morceau n'est pas un morceau de viande, bien entendu. Ok, d'accord. Donc c'est un morceau de musique et ce morceau, c'est Madame Rêve de Monsieur Alain Bachung. Et avant de l'écouter, expliquez-nous pourquoi ce morceau en particulier.
La mélodie, la musique, je sais pas. Alors ça peut paraître bizarre. C'est vrai que j'ai tendance à dire j'aime le rock. Voilà, j'ai une playlist très très rock, mais pas que en fait. Je peux avoir, ça peut être très très large et très varié. Et les morceaux comme Madame Rêve d'Alain Bachung, je sais pas, ça me porte, ça m'apaise peut-être un peu. J'aime la mélodie. Une fois de plus, j'aime la musique. Ouais. Au-delà des paroles ou des messages que ça peut faire passer, moi, ce que j'écoute, finalement, c'est plus la mélodie. Et cette chanson, elle me touche.
Eh bien, laissons-nous toucher à notre tour avec vous, Philippe Etchebest, Alain Bachung, Madame Rêve.
Atomise les deux cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve, Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, des vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Oh ciel. Au ciel, on est loin des amours de loin, on est loin des amours de loin, loin. On est loin. Comme si c'était tout comme dans les prières qui emprisonne et vous libère. Madame rêve d'apesanteur, des heures de voltige à plusieurs. Rêve de fougère, de foudres et de guerre, à faire et à refaire. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle.
Alain Bachung, Madame Rêve, c'était sur l'album Osez Joséphine et aujourd'hui dans Pop 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 sur France Inter grâce à Philippe Etchebest, notre invité aujourd'hui. Merci Philippe.
C'est déjà fini?
Ben oui, c'est déjà fini.
Merde.
Les meilleures choses ont une fin, vous le savez.
Vous
reviendrez.
Eh ben voilà.
Vous reviendrez.
Ça m'oblige à revenir.
Merci d'être venu nous rendre visite. Top Chef saison 13, c'est avec vous évidemment et c'est évidemment à suivre sur M6. Le deuxième épisode, c'est ce soir. Merci Charline.
Merci à vous.
À demain et merci à toute l'équipe de Pop 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 et à Maxime Goudard qui était à la technique aujourd'hui. Demain, on se retrouve pour une nouvelle émission. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop Pop Pop. juste après les infos. Rendez-vous avec toute l'équipe de Par Jupiter, emmenée par Charline Vanhoenacker.